de grands sujets à traiter dans une seule séance. Ça fait beaucoup de matière pour peu de temps. Alors ne vous étonnez pas si cet exposé vous donne l'impression d'effectuer un survol un peu rapide de très grands événements qui est sous le développement du mouvement ouvrier pendant un demi-siècle. Deux thèmes dont l'un, je crois, celui de la crise de la deuxième internationale, vous est moins familier. C'est pourquoi je me propose de parler davantage des événements qui caractérisent cette époque et de commenter davantage les événements qui caractérisent la révolution. Haupt vous a amené, pour ainsi dire, jusqu'à l'antichambre de la crise, c'est-à-dire ce congrès qui devait avoir lieu en août 1914 à Vienne, congrès international, congrès de la deuxième internationale, et qui n'a pas pu avoir lieu, puisque les hostilités avaient éclaté. Mais des rencontres ont eu lieu à Bruxelles, à Paris, et notamment entre les deux grands partis ouvriers, allemands et français. Et là, aussitôt, a apparu à la fois une hésitation devant les dangers de guerre et les risques qu'il impliquait en cas d'application de la tactique élaborée par le Congrès de l'International, et le recul devant ses conséquences. C'est d'abord Jaurès qui, encore au mois de mai et juin, traite Poincaré d'un fomenteur de guerre, d'un fauteur de guerre, à la tribune de la Chambre des députés. Il parle de Poincaré la guerre, et puis les événements se précipitent, et en revenant de Bruxelles le 31 juillet 1914, Jaurès dit dans les couloirs de la Chambre des députés: le gouvernement français ne veut pas de guerre. Le gouvernement français est attaché à la paix. C'est le gouvernement du service de 3 ans. C'est le gouvernement des votes massifs de crédits militaires. C'est le gouvernement qui, de manière absolument résolue, depuis 3 ans, se prépare à l'épreuve militaire, depuis la crise du Maroc. Vous savez tous que Jaurès a été assassiné, de sorte qu'il est difficile de prévoir, de dire quel aurait été son comportement. Il y avait en Jaurès des virtualités très diverses. Il est toujours difficile de préjuger de l'attitude d'un grand monsieur comme ça, mais son attitude définitive. Enfin, je vous signale que les dernières énonciations de Jaurès étaient pour disculper par avance le gouvernement français de ce qui lui apparaissait déjà comme inévitable. Du côté de la social-démocratie allemande, c'est encore beaucoup plus mauvais. Un certain Hermann Müller, qui ensuite a laissé derrière lui une trace sanglante dans le mouvement ouvrier, arrive à Paris et dit: nous nous abstiendrons probablement, nous ne voterons probablement pas les budgets militaires, nous ne votons probablement pas contre. Voilà où s'arrêtent les certitudes. Il rentre à Berlin et, à l'unanimité, en imposant la discipline, le groupe social-démocrate allemand vote des crédits militaires. Et le grand massacre commence. Là commence aussi une affabulation, une légende. La première. Bon, il y a la faillite, il y a la trahison, le reniement, dira Humbert Rose, la trahison, dira Lénine, des grands partis ouvriers, mais pas de tous les partis ouvriers. Et là, il faut faire attention. Parce qu'à force de mettre en vedette l'attitude la plus conséquente, la plus combative, la plus résolue, qui était celle des bolcheviks, on a tendance un peu à escamoter ce qui s'est passé avant et ce qui, dans une certaine mesure, a préparé ces prises de position. Alors c'est pourquoi je voudrais vous raconter un petit peu dans quel climat et dans quelles conditions le réveil, les premières réactions, les premières révoltes, les premiers refus ont lieu dans le mouvement ouvrier. Ce n'est pas très conséquent, ce n'est pas très résolu, mais c'est beaucoup plus ample, beaucoup plus large que ce que disent et racontent l'historien officiel du bolchevisme. Je vais vous donner quelques exemples. Le Parti socialiste italien, tout entier, sauf un certain type qui s'est rendu célèbre après, un certain Benito Mussolini, se dresse contre la guerre pour le maintien de la neutralité italienne, contre le crédit de guerre. Le parti ouvrier indépendant anglais, le parti socialiste, pacifiste, chrétien, vote contre le crédit de guerre. Se dresse contre la guerre et le crédit de guerre tous les partis socialistes balkaniques, roumains, serbes, bulgares, les jeunesses socialistes suédoises, norvégiennes, danoises. Y compris le Parti ouvrier suisse. De sorte que là, quand on regarde un peu comment cela commence à se dessiner, il y a dès le début de la guerre, face aux partisans de l'Union sacrée, face aux gens qui prennent part activement à la guerre et qui se joignent à la guerre, un puissant courant pacifiste, neutraliste, qui refuse la guerre, qui refuse le massacre. Et c'est grâce à eux que le premier regroupement, que le premier contact peuvent avoir lieu. Ce sont deux partis, non pas le peuple, qui ont pris la première initiative d'une rencontre internationale contre la guerre. Les partis socialistes suisses et les partis socialistes italiens. Ils n'en parlent pas beaucoup. Et puis, surgissent à l'intérieur des partis ralliés à la défense nationale des minorités. Une très faible minorité dans les partis socialistes français, faible et tardive. Une minorité plus forte, plus cohérente, groupée autour de la revue Vie ouvrière, d'inspiration anarcho-syndicaliste. Et en Allemagne, autour de Rosa Luxembourg et de Liebknecht, un petit noyau commence à se former. Et le 2 décembre 1914, contre les décisions et les consignes de la centrale, Liebknecht vote contre le crédit de guerre. Le premier. Alors il faut dire pourquoi il était le premier. Parce que les 5 députés bolcheviques qui eux aussi étaient tout à fait décidés à voter contre les crédits de guerre n'ont pas eu l'occasion de le faire parce qu'ils ont été d'abord arrêtés et ensuite déportés avant d'avoir pu voter. C'est donc là, ainsi, dans une confusion, inquiétude, trouble, qui compte cette immense machine officielle qui est la deuxième internationale, se dressent des différents coins d'horizon les gens qui disent non à la guerre. À tel point que, par exemple, en Russie tsariste, le groupe social-démocrate, amputé des bolcheviks, vote contre le crédit de guerre, en conformité à toutes les avec toutes les décisions de l'international et du parti bolchevique, à l'unanimité, les bolcheviks de Paris se joignent à la défense de la patrie française. C'est pour vous montrer et peut-être vous signaler que les choses qui, quand on les décante bien, quand on les regarde à distance, quand on les classe, quand on les organise, ça paraît tellement clair, tellement simple, tellement rigidement organisé. Et quand on met le nez dedans, eh bien ça commence à grouiller, courir à droite, courir à gauche. Les bolcheviks sont défensifs. Les mincheviks sont contre la guerre. Bon Dieu, mais ça ne correspond pas du tout au schéma. Ça correspond à la vie. Et dans ces concerts, des voix très diverses, où depuis les pacifistes intégraux, comme l'était Humbert Roos, ou comme l'était MacDonald, jusqu'aux révolutionnaires intégraux, comme était Karl Liebknecht, subitement se mêle une nouvelle voix, tardive. C'est le 1er novembre 1914 que paraît à Zurich, après d'énormes difficultés matérielles, le numéro 1 de la revue Social-Démocrate, organe du comité central du parti bolchevique. Deux documents. Un manifeste, non signé, mais écrit par Lénine. L'autre, commentaire à son manifeste, signé Lénine. Il est en chemin. Ce n'est plus la paix. même immédiate. Ce n'est plus l'armistice. Ce n'est plus arrêter les massacres. Ce n'est plus l'appel au sentiment humanitaire. Tout ça est balayé d'un coup. Lénine reprend la formule célèbre du congrès de Stuttgart. L'interprète, même abusivement, et demande qu'on l'applique. Qui dit cette formule ? Que si, malgré la lutte contre les dangers de guerre, la guerre éclate, néanmoins, les organisations ouvrières doivent tout faire pour profiter de cette crise du régime pour le jeter bas. Curieuse formule, à la fois incomplète et à plusieurs tiroirs, et Lénine, bien entendu, sort les tiroirs les plus profonds. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire jeter bas un régime? Qu'est-ce que ça veut dire tirer tout le profit de la crise du régime? Mais cela veut dire faire la révolution. Faire la révolution pendant la guerre, cela veut dire transformer cette guerre en révolution. La guerre impérialiste en guerre civile. Et voilà, par l'encheminement logique, cette formule abstraite de Stuttgart se transforme en slogan, en mot d'ordre concret. Il faut transformer la guerre impérialiste en guerre civile. Il ne s'agit pas de demander la paix. Transformer en guerre civile, comment? Mais en se prononçant pour la défaite de son propre pays. Il ne s'agit pas de se battre contre les soldats en face. Il faut se battre contre les politiciens et officiers derrière. L'orientation est renversée. Subitement, nous sommes en présence d'un paysage politique absolument nouveau. Nouveau pour l'Europe occidentale. Nullement nouveau pour les Russes. Parce que déjà, pendant la guerre russo-japonaise, depuis les libéraux bourgeois jusqu'aux anarchistes, tout le monde était défaitiste. Et le défaitisme pour Lénine, c'est tout simplement la transposition de la stratégie, je ne dirais même pas révolutionnaire, démocratique en Russie sur une situation particulière, élargie à tous les pays impérialistes. Et tout y est. Dans ces petits cahiers parus le 1er novembre, nous avons tout le programme sur lequel s'appuie le bolchevique, jusqu'à y compris la prise du pouvoir et leur sortie de la guerre. Tout y est, y compris cette formule admirable, la deuxième internationale est morte, tuée par l'opportunisme, vive la troisième internationale, débarrassée de l'opportunisme. 1er novembre 1914. Et en même temps, de plusieurs côtés, les voix contre la guerre convergent et se rencontrent. À la fin du mois de mai 1915, à Berne, se réunit une conférence des femmes socialistes autour de Clara Zetkin. 28 délégués, 7 pays, une Française. Quinze jours avant, à Pâques, conférence de jeunesse socialiste convoquée par Willy Mintzenberg, jeune socialiste allemand réfugié en Suisse. 14 délégués, 10 pays. Ce sont les premiers jalons. Et après, le grand événement qui marque le tournant. Conférence de Zimmerwald, début septembre 1915. Grimm, un des leaders socialistes suisse, dit: ils étaient tellement nombreux qu'ils pouvaient se réunir tous dans une seule voiture. C'est faux. Il a fallu deux voitures. Vous voyez comment circule la calomnie social-démocrate. Deux Français, Bourderon, socialiste, Merheim, ancien secrétaire de la Fédération des métaux. Triste socialiste. Bourderon, qui n'assiste pas aux séances. Ça l'embête. Entre la gauche zimmerwaldienne et la droite zimmerwaldienne, l'affrontement est très dur. Bourderon ne comprend pas de quoi il s'agit. Alors il sort dans le couloir, il rencontre Delenin, il a dit: il manque des femmes ici. Textuel. Il n'a pas laissé d'autres souvenirs historiques de sa participation à la conférence de Zimmermann. Ces 38 délégués de 14 pays, deux voitures. Cette petite équipe est encore extrêmement hétéroclite. Ce qui prédomine, c'est la tendance pacifiste. Nous voulons la paix immédiate. Nous voulons qu'on arrête les massacres. Nous voulons qu'on négocie. Nous faisons appel aux socialistes de pays neutres pour qu'ils demandent à leur gouvernement d'intervenir. Qu'on négocie. Mais le slogan, la revendication la plus poussée de la majorité zimmerwaldienne, c'est la paix sans annexion et sans contribution, cette formule. Et puis, autour de Lénine se regroupe une toute petite équipe. Ils prétendaient être 7. Je crois qu'ils ont exagéré. Et qui, eux, ils reprennent avec quelques nuances, peut-être aussi avec quelques progrès, cette idée de transformation de la guerre impérialiste en guerre civile. La double motivation. D'abord, cette guerre est impérialiste. Toutes les motivations idéologiques, abattre le tsarisme, abattre l'empire wilhelmien, reprendre Alsace et Lorraine, tout ça, c'est de la frime. Il s'agit des intérêts impérialistes, antagonistes, pour le nouveau partage du monde. La classe ouvrière n'a rien à y faire, elle doit se dresser contre, elle doit combattre, jusqu' et y compris l'usage des armes qu'on a bien été obligé de lui confier. d'euphétisme. On a dit d'euphétisme universel. Je me suis beaucoup intéressé à ces problèmes dans le temps et j'ai discuté là-dessus avec Jacques Sadoul. Sadoul était membre de la mission française militaire envoyée en Russie avant la révolution d'octobre. Socialiste de droite, il s'est rallié au bolchevisme. Et il a joué un rôle considérable et dans la scission en France et dans la reconnaissance par la France du nouveau gouvernement de Soviet en 1924. Jacques Sadoul était assez lié avec Lénine personnellement. Et un jour, dînant dans les deux petites pièces au Kremlin où habitait Lénine, deux petites pièces de gardien, il lui a dit, mais enfin, camarade Lénine, est-ce que vraiment vous étiez pour la défaite indifféremment de tous les belligérants en dehors des Russes? Et Lénine aurait répondu non. Je laisse ça à votre réflexion. Là aussi, je voudrais qu'on sorte des schémas, des formules abstraites, qu'on se rende compte que pour Lénine, l'essentiel dans le défaitisme, c'était le défaitisme dans l'armée tsariste. Quelle était cette gauche zimmerwaldienne dont on a tellement parlé? Qui représentait-elle? Représentait le parti bolchevique, une organisation polonaise, la social-démocratie. Une organisation lettonne, très proche des bolcheviques, qui représentait Berzin. Et une seule organisation balkanique, les Bulgares, qu'on disait étroits, qui avaient l'esprit étroit, très étroit, à tel point étroit qu'il était partisan de la guerre civile. En dehors de ça, il y avait toutes les nuances de l'arc-en-ciel politique de gauche, depuis la droite, représentée dignement par Bourderon, dont je vous ai déjà parlé, et jusqu'à sa gauche, qui était représentée par Trotsky. Mais les échos de cette petite rencontre sont absolument démesurés. On a l'impression qu'une bombe éclate. On n'en parle pas et tout le monde chuchote. Quelque chose s'est passé à Zimmerwald, en Suisse. Les gens se sont réunis. Il y a un manifeste que personne n'a lu. Ils sont contre la guerre. Une nouvelle internationale est née. Et un an après, à Kintal, en avril 1916, 45 délégués, 9 pays, 4 Français reprennent les mêmes thèmes en les perfectionnant, en l'aiguisant, en mettant davantage encore l'accent sur la nécessité de la lutte. Ils reprennent la formule de Liebknecht, l'ennemi principal est dans notre propre pays. Ils reprennent la formule de Lénine, par tous les moyens, il faut mettre fin à la guerre. Et Lénine dit, patelin, gentil, un peu méprisant, Quintala fait un pas en avant par rapport à Tzimmerwald. Et puis, le mouvement s'élargit, s'approfondit aussi. On prépare une grande rencontre à Stockholm en 17. On se dit là, c'est la grande aventure, le bureau international s'y oppose, n'y arrive pas. On va enfin sortir de ces petites rencontres sur le grand chemin de l'aventure. Et l'aventure vient d'ailleurs. C'est la révolution russe qui, malencontreusement, empêche la réunion de cette conférence de Stockholm. Elle se réunit finalement, tardivement, en septembre 1917, plusieurs mois après la Révolution. Et Lénine demande à son parti de ne pas y participer. Il dit, cette internationale de Tzimmerwald et de Quintal a vécu. La coalition, l'alliance entre les socialistes pacifistes et socialistes révolutionnaires est dépassée. Il faut rompre. Il faut faire une note internationale, débarrassée non seulement des social chauvins, mais aussi libérée de l'hypothèque pacifique. Il a une énorme influence sur son parti, comme vous le savez tous, à tel point qu'il est battu. Et que son parti décide, malgré l'opposition de Lénine, de participer à la rencontre de Stockholm. Et l'homme qui combat Lénine et qui le bat, s'appelait Zinoviev. Il a fallu 6 mois pour que Lénine se mette à penser, ce chef incontestable, qui à ce moment-là déjà était au pouvoir. Il lui a fallu 6 mois pour convaincre son parti qu'on a fait une bêtise en allant à Stockholm et pour faire reconnaître son erreur. Je vous ai dit une révolution malencontreuse, pas peut-être malencontreuse, mais surprenante. En janvier 1917, Lénine fait une conférence à une réunion de jeunesse socialiste suisse à Zurich. Il parle de la situation révolutionnaire qui mûrit en Europe par suite de massacres. Il parle de la crise générale du capitalisme, vous voyez que le terme n'est pas nouveau. Et il dit, après tout cela, sur un ton un peu désenchanté et un peu mélancolique, nous autres, les vieux, il n'avait pas encore 47 ans. Nous ne la verrons peut-être pas, nous, la révolution janvier 1917, le 28 mars 1917 éclate la révolution en Russie. Quel rôle ont joué les bolcheviks dans cette aventure? Là aussi, une légende dorée a été répandue sous le monde. Ce rôle extrêmement modeste, pour ne pas dire presque insignifiant. Les dirigeants sont en Sibérie, c'est une excuse. Mais Chlapnikov, membre du comité central et secrétaire du parti, était à Saint-Pétersbourg. Il vient à la Douma d'Empire, au Parlement, et cette Douma est envahie par les délégués de boîte, et notamment des usines d'armement, des ouvriers qui crèvent de faim. La révolution elle-même a été provoquée par les femmes qui attendaient inutilement pendant des heures et des heures devant les boulangeries fermées. C'est de là qu'est parti le maître. C'est par là qu'a commencé la révolution, la lutte pour le pain. Chlapnikov vient, sort de la clandestinité, rencontre dans un des cabinets opulents de la Douma des délégués de grandes boîtes qui lui disent: il faut reconstituer le soviet de Saint-Pétersbourg, le grand, le célèbre soviet de 1905. Il dit oui, à la rigueur, pourquoi pas. Mais il faut d'abord constituer des listes de partis. Liste de partis, quel parti? Il n'y a pas de parti. Même dans l'usine de Poutilov, 35 000 ouvriers, le parti n'était pas encore organisé. Alors il dit non, pas de liste de parti, pas de soviet. Et on constitue le soviet de Saint-Pétersbourg, pardon, c'est un anachronisme, il s'appelait déjà Petrograd. Sans liste de partis. Les bolcheviks dans la révolution de février. Un gouvernement provisoire se constitue, propriétaires fonciers, banquiers, grands bourgeois, et il dit: nous allons continuer la guerre. Et les mincheviks et les socialistes révolutionnaires disent oui, oui, nous allons continuer la guerre. Et nous allons demander à ces messieurs anglais et français de bien vouloir essayer de négocier avec les Allemands. Mais tant qu'ils ne négocient pas, nous resterons solidaires parce que nous avons des traités légaux et secret qui nous lie, l'ego, pour la défense de la liberté tsariste, secret pour la conquête de Constantinople. Les internationalistes, les bolcheviks, les mincheviks, quelques Polonais, essayent d'arriver dans ce pays qui bouillonne. Et dans un wagon qu'on a déclaré plombé, qui ne l'était pas. Il passe à travers l'Allemagne. Agent de l'état-major allemand, ça va de soi, puisqu'on les a laissés passer en pleine guerre. Et c'est dans cette atmosphère de pogrom qu'il arrive, lui, avec quelques-uns de ses compagnons à la gare de Finlande le 4 avril 1917. Discours de bienvenue, bolcheviques, mincheviques, socialistes révolutionnaires, tous d'accord, faut continuer la guerre, faut rechercher la paix, faut soutenir le gouvernement provisoire. Lénine monte sur la locomotive. Et devant cette foule de gens accueillants, plein d'amitié, de sympathie, de fraternité prolétarienne, il dit quoi? Gouvernement provisoire, valet de l'impérialisme, qu'il faut balayer tout de suite. La guerre, les traités, fouin des traités, paix immédiate.